Hey, tampoco va la tuque truca tuque tac tuque toca tuque diga tuque raga tuque digo raguna na bebe mi luca petit capuru en cueli coba tuque truca tuque tac tuque toca tuque diga tuque raga tuque digo raguna na bebe mi luca petit tampoco va la tuque truca tuque tac tuque toca tuque diga tuque raga tuque digo raguna na bebe mi luca petit capuru en cueli coba tuque truca tuque tac tuque toca tuque diga tuque raga tuque digo raguna na bebe mi luca petit.
C'est l'histoire d'un homme qui a trois pères. Le premier, qui le voyait plutôt professeur de géographie, mais qui, sans en mesurer les conséquences, l'a confié à un ami vigneron. Le deuxième, cet ami en question, qui l'a emmené avec lui dans les vignes, mais qui ne voulait pas que ce fils quasi adoptif devienne vigneron. Le troisième, qu'il a rencontré grâce au Bon Coin, à qui il a acheté des vignes, sans même aller les voir, qui lui a transmis son bébé et lui a permis de s'installer. Sandro Trescol, la trentaine, vigneron à Cossé-Véran depuis 2 ans, est le fruit de cette triple filiation. Il a fallu ces 3 strates emmêlées comme un sol vivant pour que pousse le vigneron accompli et déterminé qu'il est aujourd'hui. À croire qu'on n'en finit jamais de jouer au père et au fils. D'ailleurs, c'est en pensant à ses enfants, au monde qu'il va leur laisser dans lequel ils vont devoir grandir, qu'il a construit sa manière de travailler, dont le fil à plomb est une sobriété radicale qu'il pratique depuis de nombreuses années, bien avant que cela devienne une injonction gouvernementale. Avant de consommer de l'énergie ou d'utiliser une machine, Sandro se demande s'il ne peut pas faire autrement. Et le voilà qu'il encuve les raisins à la main, les foule avec les pieds, met en bouteille par gravité, démarche lui-même clients, cavistes et supermarchés, refusant d'envoyer son vin à l'autre bout du monde. Il faut dire que l'énergie lui brûle les doigts. Ses pères ont dû lui bâtir une centrale interne, en ont fait un ogre, un peu punk, un peu philosophe, un ogre qui bouffe la vie, tantôt avec gourmandise en cuisinant des repas gargantuesques qui s'étalent sur 2 jours, tantôt avec rage pour dénoncer l'absurdité du monde. Un ogre dont la radicalité n'a d'égal que la générosité. Adicias, Bravemunde, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Glouglou, dorénavant sur Radio Languedoc, mais toujours aussi sur Radio Pays d'Hérault et RPH Sud. L'émission qui s'intéresse aux vins vivants et qui fait le portrait de celles et ceux qui le font se poursuit et balade son micro du Larzac jusqu'aux Corbières. Et nous sommes aujourd'hui dans le studio de Radio Languedoc à Narbonne en compagnie de Sandro Trescol, domaine Segundomas à Cossé-Véran dans l'Hérault. Adicias, Sandro.
Adicias.
Pour nous aider à découvrir Sandro Trescol, je suis accompagné aujourd'hui de Thierry Guichard, la part de l'ange à Valras-Plage et prochainement à Narbonne. Adicias, Thierry.
Adicias.
Et de Corinne Escafite, la cave au vin vivant à 7. Adicias, Corinne.
Adicias.
Corinne, qu'avez-vous lu aujourd'hui pour votre chronique Les livres que j'aime sur les vins qu'on aime ?
Un gros défi, un gros morceau, le livre Mille vignes, penser le vin de demain de Pascaline Lepelletier.
Et vous, Thierry Guichard, à qui avez-vous écrit cette fois ?
Eh bien, le mois dernier, vous trouviez que j'avais d'autres drôles d'amis. Eh bien, ce mois-ci, j'écris à Tamim Ben Hamad Al Thani, qui est l'émir du Qatar.
Très bien, un ami de circonstance. Merci, nous retrouverons vos 2 chroniques un peu plus tard dans l'émission. Mais pour le moment, je me tourne vers notre invité, Sandro Trescol, à qui je pose la première et rituelle question de cette émission. Pour vous, Sandro, c'est quoi un vin nature ?
Oh, ben c'est du vin. Point. Des raisins bien mûrs, bien cultivés, et puis vinifiés sans artifice, qui mentent pas, et qui sont souvent des vins qui ressemblent à l'eau, qui ont la texture de l'eau quand ça passe dans le gosier.
Très bien, nous allons découvrir la manière dont vous avez découvert vous-même ces vins, cette manière de travailler, comment vous en faites aujourd'hui. Et pour cela, avant de parler plus précisément de votre travail, de votre méthode culturelle et de vinification, je propose que l'on parle un peu de vous et de votre parcours. Sandro Trescol, donc, vous avez grandi en Ardèche, dans une famille d'enseignants. D'ailleurs, c'est à ce métier que vous pensiez d'abord vous destiner en entreprenant des études supérieures de géographie. Mais un jour, pour payer vos études, vous cherchiez un petit boulot, vous ne trouviez pas. Et c'est votre père qui vous décroche un job. Racontez-nous cette histoire.
Oui, c'est bien ça. Ouais. J'avais l'habitude de travailler dans une usine, mais 2008, crise économique oblige. Je suis parti dans un milieu qui ne connaît pas la crise. Et à ce moment-là, je me retrouve donc chez Dar et Ribot, par hasard, l'habit de mes parents.
Donc, domaine Dar et Ribot, Ardèche, Vallée du Rhône, Croz-Hermitage, Hermitage, Saint-Joseph.
C'est ça.
Donc, René Jandar et François Ribot, voilà.
Tout à fait.
Dont l'un des deux, François Ribot, je crois, était un ami de votre père, c'est ça ?
C'est ça, ouais, hein, ils se connaissaient.
Voilà, ils se connaissaient. Voilà,
voilà. Ouais. Et c'est comme ça que je me retrouve pour la première fois dans des vignes. Et rapidement, au bout de quelques heures, que je goûte les premiers Saint-Joseph de chez Dar et Ribot, dans les vignes, puisque c'était à l'époque comme ça qu'on bossait. Et là, c'est l'émerveillement, quoi.
D'accord. Une sorte de révélation qui aurait pu ne pas se produire, parce qu'il paraît que votre père, il vous a décroché ce boulot sans même vous prévenir, quoi. Vous travailler demain, mais vous ne saviez même pas où vous allez. Quoi.
Ouais,
donc, et vous m'avez même dit, si j'avais su que c'était à la vigne, j'y serais pas allé.
C'est sûr qu'au début, ça fait bizarre. Hein, quand on arrive à 6 heures dans un coteau monstrueux et qu'on n'est jamais allé dans les vignes et que je ne savais pas du tout ce que j'allais faire. Ouais, je me suis demandé ce que je faisais là, mais ça m'a vite passé.
Bon, ces deux vignerons vous ont pris sous leur aile et ils vous ont appris les rudiments. Enfin, en tout cas, ils vous ont intégré dans l'équipe de travail, c'est ça
C'est ça, c'est ça.
Donc, les premiers jours, vous faisiez quoi? Vous en rappelez? Les premiers jours au travail chez Dar et Ribot, c'était quoi
Arracher de l'herbe dans les coteaux au pied des vignes.
Ah ben oui, c'est un domaine en bio, hein, forcément.
Relever la vigne, attacher la vigne.
D'accord.
C'est ce que j'ai commencé par faire. Et puis surtout, ils m'ont fait aimer le vin. Hein. C'est incroyable.
Ah oui, donc effectivement, donc, vous avez goûté du vin avec eux, et ils vous ont fait aimer du vin, et du vin nature, ou du vin point, comme vous le disiez vous-même, parce qu'ils font du vin donc, sans intrants, sans chimie, depuis, je crois, la fin des années 70 ou début des années 80, mais sans avoir véritablement à le revendiquer, c'est ça ?
C'est ça, exactement. D'ailleurs, je pense qu'ils n'apprécient pas du tout d'entendre parler de leur vin comme ça. C'est des gens qui ont fait du vin suite au décès du père de René Jean. Il avait 14 ans quand son père est mort. Il arrive à 2 semaines des vendanges. Il a dit « T'inquiète pas, maman ». Et il est allé faire le vin. Puis ils ont fait des études après, des grandes études de 5 ans à l'université de Bonn. Et là, ils m'ont dit « On a appris tout ce qu'il ne fallait pas faire. Maintenant, on va continuer à faire le vin comme on l'a toujours fait, sans se poser de questions ».
D'accord. Et comment il savait faire ce vin là? Par observation, justement, lui-même, des méthodes familiales ou par intuition
Il y a beaucoup d'intuition, je pense, d'empirisme aussi, et d'observation de ce que faisait son père. Et puis surtout, ils font des vins qu'ils aiment. Ils avaient besoin de pouvoir boire ce qu'ils faisaient. Et cette belle formule qui résumait bien ce que leur mentalité à leur début, c'était de se dire que ce qu'ils n'arriveraient pas à boire, ils le vendraient. Voilà.
D'accord. Très bien. Et donc vous passez un été dans ce domaine. Comment vous vivez cette période? Est-ce qu'en partant, vous vous dites que vous voulez devenir vigneron comme eux?
En partant, j'ai un grand sourire. Je ne sais pas trop pourquoi, mais je suis vraiment la banane. Je rentre voir mes potes. Ils me disent « Ah, t'as l'air tout content ». Ouais, je ne sais pas trop pourquoi. Puis j'ai repris mes études.
D'accord. Donc au début, vous aviez toujours dans l'idée de devenir plutôt prof, comme on a fait chez vous, comme le pensait votre père. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous m'avez dit, au moins en partant, j'ai pris une première décision, j'ai arrêté d'acheter du vin à 3 euros chez Nicolas.
Ça, c'était le début, ouais. Effectivement, j'ai commencé à boire du vin.
Et pas n'importe lesquels, quoi, à choisir.
Et voilà, à choisir. Avant, je ne savais pas, je ne connaissais pas, et je buvais quasiment pas de vin. Je buvais surtout de la bière pas chère, j'étais étudiant. Enfin, j'avais pas oublié de boire, mais quand même. Aujourd'hui... C'est vrai qu'en partant, j'ai aimé le vin. Après, j'ai fini ma licence et je suis donc intégré un master de géographie viticole.
D'accord, donc vous étiez toujours là un peu entre deux, entre le monde du vin, le monde universitaire. À noter que je crois que François Ribot et René Gendard, qui vous ont pris sous leur aile et commencé à vous apprendre le métier, ne voulaient pas que vous deveniez vigneron.
Ah oui, non, ils m'ont même pas vraiment appris le métier. Moi, j'ai observé ce que je pouvais. Les vendanges, je les faisais pas parce que j'avais cours à cette époque-là. Mais bon, j'ai réussi à faire une journée de vendanges. J'ai ouvert grand mes yeux, j'ai regardé tout ce que je pouvais. J'ai tout mis dans ma tête et j'ai tout gardé. Et ça m'a beaucoup influencé pour faire mes premiers vins.
On en parlera en fin d'émission quand vous nous raconterez vos méthodes de vinification qui sont directement inspirées de ce que vous avez pu observer. Mais pourquoi ne voulait-il pas que vous deveniez vigneron?
Ah, c'est un métier trop dur. Il considère que c'est un métier trop dur et finalement, il me disait que prof, c'est bien. Il y a plein de vacances, c'est calme, tranquille, t'auras le temps de boire du vin. Peut-être même le temps d'avoir un demi-hectare. Mais je pense qu'il trouve que le métier est trop difficile.
D'accord. Donc ils ont essayé... de vous dissuader, mais on va voir, ils n'y sont pas totalement arrivés. Vous avez d'abord donc fait ce master géo-viticole, qui avait pour but une étude de terroir, c'est ça?
Oui, c'est ça, ouais, j'ai étudié deux terroirs, du coup.
Donc là, de manière plutôt scientifique
Sur le point de vue de la géographie, donc c'est beaucoup d'ethnologie, le comportement des gens par rapport au terroir, par rapport aux conditions climatiques, quoi.
D'accord. Et donc, un de ces terroirs, c'était autour de d'Estésargues, dans le Gard. Et finalement, justement, au moment de penser le concours d'enseignant, finalement, vous préférez aller travailler dans cette cave où vous êtes embauché pendant 18 mois.
Oui, c'est ça. Je travaille, du coup, avec le stage, 2 ans avec l'équipe de cavistes d'Estésargues, de l'époque, et avec Denis Deschamps, qui était le gérant, et je crois qu'il est à nouveau gérant, d'ailleurs.
D'accord. Une cave particulière
qui cave coopérative.
Coopérative, qui travaille beaucoup ça en chimie aussi.
Oui, alors moi, du moins pour les millésimes où j'étais présent en cave, oui, ces vins sont non filtrés, non collés, sans levure industrielle et très peu sulfités.
D'accord. Donc c'est là que vous apprenez aussi, compléter votre apprentissage de la vinification notamment.
Ah oui, là j'apprends énormément, hein, aux côtés de Denis qui est très pointu, et du coup j'arrive à comprendre comment faire pour faire fermenter les vins et voilà les enjeux de des fermentations spontanées rapides qui donnent des vins avec peu de défauts.
D'accord. Et est-ce que cette expérience vous a définitivement convaincu que c'était là votre voie?
Alors non, pas encore, parce que je pouvais pas, en sortant de la cave de Stédargues, me dire que j'allais faire du vin. J'avais pas les cartes en main et j'avais trop de respect pour ce métier. Moi, mes parents, ils font pas ça. Je pense pas qu'on puisse claquer des doigts et devenir vigneron. Donc,
et vous étiez pas passé par une voie, par une formation officielle, quoi. Vous étiez formé sur le tas.
Aucune formation officielle. Donc, il me manquait une expérience longue chez un vigneron.
Pour vraiment apprendre la globalité du métier, de A à Z, de la vigne à la cave.
Voilà. Et puis le tracteur, les mises en bouteille, et surtout à une échelle qui correspond à ce que je veux faire, puisque Estésargues, c'est 2 millions de bouteilles.
Donc voilà, là, c'était plutôt chez un plus petit vigneron, plus petite propriété. Vous êtes allé chez Nicolas Renaud, le Clos des Grillons, à Rochefort-du-Gard, pas très loin, chez qui donc vous avez travaillé pendant 2 ans et demi.
Oui, c'est ça. Ouais, je suis resté, du coup, trentaine de mois. Et là, j'ai tout vu, quoi, et bien comme il faut. Hein, je suis arrivé et je revois Nico me dire « Ah, c'est bien que tu sois là, je suis seul, j'ai 17 hectares en bio ». Ah. Donc on a bossé beaucoup pendant 2 ans et demi, et il continue aujourd'hui à travailler autant. Je crois qu'il a mis un peu moins de vignes, mais heureusement.
D'accord. Après cette période là, cette fois donc, vous avez décidé de vous lancer et de faire votre propre vin, et vous avez commencé chez vous avec 2 associés chez vous en Ardèche, d'abord en achetant des raisins, petit à petit en récupérant des vignes.
Oui, c'est ça, ouais. On a commencé
en 2016, c'est ça.
En 2016, ouais. En 2016, on a acheté des raisins dans le Gard qu'on a remonté en Ardèche, parce que c'était là que j'avais mes contacts, et on a trouvé aussi en Ardèche des raisins sur les communes de Flaviac et Saint-Julien, là où on avait la cave.
Donc des raisins que vous achetiez, puis après des vignes en fermage, c'est ça?
Voilà, c'est ça. À partir de 2017, on a récupéré des parcelles de vignes dans la vallée de l'Eyrieux, Saint-Laurent-du-Pape, en fermage. Et ensuite, on a rencontré un vigneron de Saint-Julien, Charles Elfenbein, qui avait des parcelles en trop, et du coup, qui nous a loué ces parcelles.
D'accord. Et donc, vous vous constituez comme ça un petit vignoble. Donc, pendant quelques années, vous vinifiez sous le nom Trescol, Ferrier et Bouit. Puis Trescol et Bouit, votre nom est celui de votre associé. Et puis un jour, en allant chercher des champignons, vous passez devant une de vos vignes. Et là, qu'est-ce que vous voyez?
Ah, je suis stupéfait, on est le 15 décembre et les vignes sont taillées. Bon, j'appelle mon associé. J'ai dit « John, c'est pas le moment de tailler les vignes. » Alors il me dit « Ouais, je sais. Pourquoi ?» Et là, j'ai dit « Ah, il y a un problème. » Et en fait, notre vigne, elle avait été taillée. Et là, je suis allé voir le propriétaire qui m'a dit ouais, il m'a reçu froidement, et 48 heures plus tard, j'avais les courriers avec accusé de réception, comme quoi ce monsieur devenait vigneron.
D'accord, il remettait en cause le fermage donc qu'il vous avait accordé.
Oui, tout à fait, et qu'il n'est jamais devenu vigneron, cela dit. Hein.
D'accord, bon. On ne suivra pas son histoire à lui, mais en tout cas, vous, cet événement vous a quelque peu traumatisé, et du coup, vous vous êtes mis à chercher d'autres vignes pour être sûr d'être vraiment chez vous, c'est ça?
Oui, puis surtout récupérer l'hectare qui me manquait, du coup.
Oui, oui.
Donc je cherche, ouais, sur le bon coin, fermage, viticole, Drôme Ardèche.
D'accord, vous cherchez d'abord toujours pareil, chez vous, et puis une annonce attire votre attention.
Oui, je sais pas pourquoi, parce que du coup j'avais mis des critères Drôme Ardèche, et le moteur de le bon coin me sort une annonce loufoque, au possible, sur la commune de Cosse-et-Véran. Enfin, loufoque, particulière, laquelle je balaye d'un revers de la main.
Parce que vous y croyez pas, vous trouvez ça, le prix vous paraît pas...
Le prix me paraît pas du tout.
Vraiment pas cher.
Voilà, c'est ça. Donc je balaye d'un revers de la main, mais il y avait un collègue à côté de moi qui lui en fait a pris le numéro de téléphone et pendant que je râlais comme un putois a envoyé un SMS en disant est-ce que l'annonce est sérieuse. Et le lendemain matin ils ont répondu oui bien sûr. Et là mon collègue me dit regarde appelle-les quand même. Et voilà c'est de là que j'appelle
Daniel Ling, donc qui était le propriétaire de Puechort, c'est ça le domaine donc à Cosséveran. Et donc en effet vous arrivez à Cosséveran chez Daniel Ling. Alors racontez-nous là aussi comment s'est passée cette première rencontre et la décision d'acheter le domaine.
Ah là, c'était particulier effectivement. Je suis arrivé donc dans la cave où on a commencé à discuter un petit peu et puis il m'emmène dans son hangar et là je vois un intercept. Alors je le regarde. Je lui dis, eh, pourquoi vous avez un intercept c'est complètement, ça sert à rien, vous n'êtes pas en bio. Et il me dit, mais si, bien sûr que je suis en bio. Nature et progrès depuis 5 ans, le sol vivant. Et je lui dis, mais pourquoi c'est pas marqué sur l'annonce? Bon, il m'a répondu qu'il pensait que ça se vendrait pas s'il mettait ça sur l'annonce. Donc je lui ai serré la main, je lui ai dit, écoutez, vos terres sont vendues, moi j'achète, enlevez-moi cette annonce du bon coin tout de suite.
Et donc vous avez acheté les vignes sans les voir finalement.
Je suis allé, mais j'avais pris...
Quand vous avez su voilà, qu'elles étaient cultivées en bio, qu'elles correspondaient vraiment à ce que vous cherchiez.
C'était inespéré.
Vous l'avez dit, un vignoble... vous allez nous le raconter avec des cépages plutôt autochtones, locaux et un sol déjà vivant. C'est ça que vous avez trouvé quoi dans ces vignes, c'est ça ?
C'est ça. Je pensais clairement faire un aller-retour pour rien, mais parce que des vignes en chimie, je les aurais pas pris. Hein. Je serais rentré chez moi.
Ouais. Et là, vous avez trouvé donc un petit coin de paradis. Alors l'an dernier, donc en 2021, vous avez commencer à prendre en main ce domaine. Et ce qui est joli à raconter, c'est que la transmission ne s'est pas faite d'un coup sur un bout de papier chez le notaire, mais que vous avez passé un an à travailler avec Daniel Lin, l'ancien propriétaire, partageant pratiques, travail à la vigne. C'est ça ? Il y a eu une forme de temps de passation, c'est ça ?
Oui, c'est ça. Ben, du coup, lié aussi au fait qu'il était quand même, il en avait marre. Lui, et je suis allé dans les vignes, largement avant d'avoir signé chez le notaire, mais bon, on avait une relation très saine, et donc on a fait 2021 à six mains avec Jeanne, puisque Daniel et Jeanne travaillaient ensemble.
D'accord. Et donc là, depuis cette année, vous avez pris en main le domaine tout seul. Voilà, vous l'avez nommé Segundomas, c'est votre deuxième aventure viticole, c'est ça ? C'est la seconde. Peut-être il y en aura d'autres, on en reparlera. En tout cas, aujourd'hui, quel regard portent Daniel et Jeanne, là, qui vous ont transmis le domaine sur votre travail, votre entreprise ?
Ah ben, ils sont enthousiastes, ils sont très contents, parce qu'en fait, eux étaient très... ils avaient beaucoup d'appréhension à l'idée que leurs vignes partent dans les mains d'une agriculture plus chimique et qui aurait fait que le travail qu'ils ont fait pendant 5 ans a été perdu. Et du coup, ils sont très contents que je poursuive dans cette voie. Après, je fais des vins qui sont différents, mais ça leur pose pas de problème. Ils sont ravis. Non, ça se passe très bien.
Et François Ribaud, qui ne voulait pas que vous deveniez vigneron, qu'en pense-t-il ?
Ah, il paraît qu'il est très content parce qu'il aime bien descendre dans la région. Et je l'attends d'ailleurs. Il doit passer en allant à Bédarieux voir sa pote... De la cave que je ne me souviens plus le nom.
Christine Canac.
Voilà, exact.
Chez Christine.
Et ben voilà, le message est passé à François Ribaud. En tout cas, il vous donne quelques conseils maintenant. Il vous dissuade plus de faire vigneron.
Ouais, non. Sauf
que la cause est perdue, ça y est.
En fait, oui, d'ailleurs, c'est la première personne à être venue en 2016 à mon premier millésime. Il est venu 7 jours après les encuvages des premiers rouges. Et il nous a amené des verres à vin, c'est rigolo, parce qu'on n'en avait pas. Et il a goûté, il a dit c'est bon, et là, là je crois qu'il y a 3/4 de mon stress qui s'est envolé, j'étais hyper soulagé, et puis voilà, après c'est parti.
Très bien, on verra dans vos dégustations, vous nous raconterez comment il continue à vous influencer. Et votre père, pas de regret que vous ne soyez pas devenu enseignant ?
Faudrait lui demander, normalement, il est content, ils sont très fiers, mais bon, c'est stressant.
Et oui, un métier, un choix pas facile. J'ai l'habitude de vous comparer à des artistes, des funambules qui prennent un peu des risques, quoi. Et nous allons écouter vous, la manière dont vous le faites. Vous êtes vigneron depuis une dizaine d'années. On a entendu combien cela avait été le fruit de plusieurs concours de circonstances et d'un choix finalement pas si évident à prendre. Maintenant, vous voyez faire vigneron toute votre vie, maintenant que vous avez commencé ?
Ah oui, sûrement, ouais. Ce serait étonnant que je fasse autre chose.
Ouais. Vous avez vraiment découvert une véritable vocation ?
Oui. Puis je m'attache quand même à mes vignes. Alors après, forcément, je ne me vois pas les abandonner.
D'accord. Vous serez vigneron à Cosséveran ou vous voyez vivre une autre expérience de vigneron ailleurs, un troisième mas peut-être un jour?
C'est possible, ouais. Mais ça, j'en sais rien.
Ouais, ouais. Mais des rêves que vous voulez nous partager ou
la Tchéquie? La Tchéquie, clairement. Ouais. Des sols complètement sains, qui n'ont jamais vu de chimie parce qu'ils ont... parce que c'est bien de faire de l'agriculture comme ils font, quoi. Et puis c'est, ouais, c'est.
On fait du vin déjà là-bas un peu?
Oui.
Ouais, ouais.
Ouais. On en fait, ouais.
Du d'accord. Bon. Ouais, ouais. Très bon. Je vois les cavistes qui approuvent, qui peut-être nous parleront d'une cuvée qu'ils connaissent, de vignerons qu'ils connaissent dans ces coins-là. Corinne Escafitte, j'allais me tourner vers vous pour continuer à parler du futur. Là, on parlait du futur de Sandro Trescol. Et vous avez choisi de nous parler du futur aussi, puisque vous avez lu pour nous « Mille vignes, pensez le vin de demain » de Pascaline Lepelletier. On vous écoute.
Oui, alors il faut d'abord que je vous dise que quand j'ai choisi cet ouvrage pour ma prochaine chronique ici chez Glouglou, je me suis lancé un sacré défi et j'ai souvent pensé ne pas y arriver. L'objet en lui-même est en effet impressionnant, massif, autour de 350 pages et pas loin de 2 kilos au jugé. Et son contenu est pour le moins dense. Alors comment rendre compte d'une telle somme, si érudite, à la fois complexe et finalement accessible, j'y reviendrai. Comment rendre justice à une dissertation si brillante et qui pourtant vous émerveille? Et c'est justement parce que la lecture de Mille Vignes est enthousiasmante que je voulais partager cette expérience avec vous et je l'espère vous donner envie de vous précipiter chez votre libraire. Présentant son autrice pour commencer, Pascaline Lepelletier est une femme brillante, érudite, pédagogue, une femme de conviction et d'un grand sérieux dans tout ce qu'elle entreprend, et pourtant très accessible, que ce soit dans cet ouvrage ou en interview. Elle allie un grand sérieux, appuyé sur un travail de fond dans tout ce qu'elle entreprend, à une sympathie immédiate et une approche à la fois sérieuse et bienveillante. Quelques éléments de sa biographie rendent bien compte de sa capacité de travail incroyable et de son parcours particulier. Après des études poussées de philosophie, elle s'oriente vers la restauration, puis la sommellerie, grâce à la révélation que lui procure la dégustation d'un grand vin mythique. Elle prend part à plusieurs concours de sommellerie et devient notamment meilleure ouvrière de France et meilleure sommelière de France en 2018. Doublé historique, c'est la première femme lauréate de chacun de ces deux concours nationaux. Et elle est la candidate française pour le prochain concours de meilleur sommelier du monde qui aura lieu en février 2023 à Paris. Alors il est vrai que cette formation plutôt classique, ponctuée de concours de sommellerie, pourrait paraître éloignée de ce dont nous parlons ici chaque mois. Mais en fait, Pascaline Lepelletier réussit brillamment à mettre en relation cette approche académique et la promotion des vins vivants, des vins biologiques, biodynamiques et naturels, dont elle est une brillante ambassadrice et qu'elle met si bien en valeur dans les cartes des restaurants pour lesquels elle est sommelière, comme dans ses écrits, dans des revues spécialisées, des livres en collaboration, et enfin dans l'ouvrage massif qu'elle signe ici, mais aussi dans son enseignement, et également comme conférencière, et pour finir, de façon très concrète, avec un projet chez Pica, mené en collaboration avec un vigneron dans la région des Finger Lakes aux États-Unis. Elle partage sa vie entre New York et des visites dans les vignobles pour toujours conserver le lien au vignoble et au vigneron, car le vin se fait à la vigne. La reconnaissance que Pascaline Lepelletier obtient de la part de ce monde du vin plus classique, elle signe notamment une chronique régulière dans la Revue du vin de France, c'est peut-être le signe d'une possible évolution de ce monde et c'est une bonne nouvelle. Et ce n'est d'ailleurs pas anodin que son livre, à l'approche novatrice et orientée vers les viticultures préservant le vivant, soit édité par Hachette Vin, éditeur qu'on a connu, disons plus conservateur. Le livre se décline en trois parties. Après une introduction assez personnelle, intitulée en clin d'œil « On ne naît pas sommelière, on le devient », référence évidente à Simone de Beauvoir et à son fameux « On ne naît pas femme, on le devient ». Je ne développerai pas l'aspect féministe du parcours et du propos de Pascaline Lepelletier, mais il est à noter que cela fait un bien fou à un monde du vin qui n'est pas exemple de machisme ni de patriarcat plus ou moins conscient. La construction de l'ouvrage est très didactique. Première partie, lire la vigne, puis lire les paysages et enfin lire le vin. Mais l'autrice le dit elle-même pour décomplexer son lectorat. On accède à son propos par des entrées multiples. Mille vignes fait partie de ces bouquins qu'on garde à portée de main et qu'on aborde par un bout puis par l'autre, qu'on savoure doucement et au sein desquels on se balade. Le vin y est appréhendé comme fait culturel global et tous ses aspects sont examinés, discutés, questionnés. Pascaline Lepelletier a mobilisé tout un ensemble de connaissances scientifiques, botaniques, géographiques, historiques, esthétiques et philosophiques. Elle convoque toutes les disciplines, de l'agronomie à l'anthropologie, en passant par la géologie. C'est en cela qu'on peut parler d'une somme à propos de cet ouvrage et d'une approche encyclopédiste, mais loin d'être figée, toujours en mouvement et qui ouvre de nombreuses voies de réflexion à poursuivre. Il ne faut pas craindre cet aspect scientifique qui peut paraître trop savant dit comme ça, car la sagacité d'une pensée agile et claire et la qualité du raisonnement nous permettent de suivre les démonstrations sans forcer. La volonté affirmée par l'autrice de rendre le lecteur plus confiant et mieux armé pour aborder les multiples aspects du vin fonctionne parfaitement. L'aspect émotionnel n'est pas laissé pour compte, loin de là. Le vin est envisagé comme le reflet de notre façon d'habiter la terre. Et Pascaline Lepelletier déroule un propos qui nous invite à laisser libre cours à notre capacité d'émerveillement. En réflexion de fond, elle interroge la dichotomie si problématique entre nature et culture, sur laquelle repose notre vision occidentale du monde, en s'appuyant sur des auteurs importants pour notre époque, Philippe Descola, Bruno Latour, Baptiste Morisot. Et elle fait le lien entre cette sensibilité au vivant qu'il s'agit de construire et l'approche de la vigne et du vin par le mouvement des vins dits nature. Du vin, comme dirait Sandro. Il y aurait encore tant de choses à dire sur cet ouvrage important, une somme érudite mais finalement très accessible, dont on ne fera pas le tour rapidement, et tant mieux, car c'est un plaisir de plonger dans ces pages. Alors vous l'aurez compris, c'est un magnifique cadeau à vous faire et à faire autour de vous.
Merci Chronique Escafite pour cette chronique fournie à la hauteur de la somme et de l'ambition de cet ouvrage. On ne naît pas sommelier, on le devient. On ne naît pas vigneron, on le devient. On l'a entendu avec le parcours de Sandro Trescol, que nous connaissons maintenant un peu mieux, et dont nous allons évoquer donc la manière de travailler. Mais avant cela, nous faisons une première pause musicale. C'est vous qui avez choisi le groupe. Je vous laisse nous l'annoncer.
Moresca.
Moresca Fracadub. C'est parti.
Era bon, si se vivia com com la aigua, com. Jo no tenia un litre, clar, cal.
O nom de Bacos, o nom de Bacos, vigent aquí i l'Ikimiga. O nom de Bacos, o nom de Bacos, de la vinya d'Oxitavga. O nom de Bacos, o nom de Bacos, vigent aquí i l'Ikimiga. O nom de Bacos, o nom de Bacos, de la vinya d'Oxitavga.
Porque raio li segue se tem bala, aqui comença um novo cibacanal. Voglio dire tout ce che mi pique d'in lo curasso. Je so que volo mes amis, je so que ven i besu. Une barrique canune, des chinas persilènes. Ne s'inquiète d'abun, y pèque à sa noce superne.
Est-ce que le monde est une bouffiga, que la fille de tes femmes. Est-ce qu'il y a une garçon qui lui dit son pipa. Alors dansons les fadolis sur la place publique. Et si ça roule les mains, les jeans sur la musique.
Si c'est un pire refap ou des marissants.
Pas son tal, ça star est notre fan.
Périmique, mandarin la desbrane. La nuit sera longue, la nuit sera grande.
Putain des grandes. Putain des grandes.
Au nom des Bacos, au nom des Bacos, vigent d'aqui les immigrants. Au nom des Bacos, au nom des Bacos, de la vigne d'Oshitavga. Au nom des Bacos, au nom des Bacos, vigent d'aqui les immigrants. Au nom des Bacos, au nom des Bacos, de la vigne d'Oshitavga.
Sans ce qui dit ma boucle, les paroles sont physiques, c'est balancé ma tchatche, est-ce que tout a copique? Y'a prendre des grades, une latine des migrants sont brûlés sous les wins du game version.
Si ouais, rabia que la parole est sur le son s'affine. Si ouais, important que c'est malice et souvent. La mienne rime, est-ce que l'immarida si tient qu'elle fait une bonne mine. Comme est-ce des mythes pesas sur les skins.
Quand tu vois les cantins, sauf que ma tête est pleine. Des tonnes de mots, la langue en scène. Quand tu cantes Bacchus, protégé des silènes. Quand tu lis Bacchus, t'es le grandeur des arènes. Le monde non sera plus que des magies d'autèque. C'est venu ta folie, j'ai des prétextes. C'est venu ta folie, j'ai des prétextes.
Signora Cicera, vendame Cicita. Signora Cicera, vendame Cicita. Si non tiene Cicita qualche raccosita, signora Cicera. Della cordillera hasta los yungas, pueblo de arena y de piedras. Se dicen collas bajo las montañas, cosechando el sol y las lluvias. En todos los Andes, en las alturas, viven estos hombres entre condores y llamas. Echando sus dioses, hablando pochayas, echando a la vez coquita y rimas. Bacus en el micro, vino y hierbas, pichando, chupando. Como esta chichita naciendo del maíz sagrado, sin gani de las uvas y del viento, durmiendo en las entrañas de las tierras. Pachamama, estás un lirico con alas. Palabras como mariposas que frente al enemigo se vuelven armas. Palabras como mariposas que frente al enemigo se vuelven armas.
On a tous croqué la pomme, on se prend pour des as. Au final on finit tous dans la même hangar. Au final les hommes trop souvent se lassent.
morceau à la tonne du son et des basses, des paroles qui cognent pour faire bouger les masses. C'est ce qu'on te donne pour que tu te délasses. C'est ce qu'on te donne pour que tu te délasses.
Et les estrides aux voix qui sont aux vents antiques,
des baffles qui sont des SM58,
un épaule au général
et la salle.
Que t'arrives du bain,
un nom de musical.
Manipulé qu'on est payé,
j'ai la tradition.
Fait pétaliser quatre, est-ce pour qui c'est l'inazin. Elles arrivent à l'outil ou bien pas pour Corona.
Que c'est des bannes à la fête, Inch'Allah. Que c'est des bannes à la fête, Inch'Allah.
Moresca Fracadub, le choix musical de Sandro Trescol, aujourd'hui dans Glouglou, avec nos deux chroniqueurs cavistes, Thierry Guichard, la part de l'ange à Valras-Plage et Narbonne, et Corinne Escafit, la cave au vin vivant à 7. Vous êtes sur Radio Languedoc ou sur Radio Pays d'Hérault et RPH Sud, et nous découvrons le domaine Segundo Mas à Cosséveran, entre Saint-Chinian et la vallée de l'Orbe. Alors, le chai de Sandro Trescol est situé au cœur du village de Cosséveran, et je vous propose de vous y emmener tout de suite pour une petite visite. Voilà. Alors là, on est devant la cave de Sandro, au numéro 6 de la rue de Montpérou. Là, c'était une maison aussi ou que la cave ?
Alors non, là,
t'habites là ?
Non. Moi j'habite là.
Ah ouais, voilà, c'est ça.
Donc là, il y a le hangar à côté. Ouais.
D'accord.
Juste au-dessus du hangar, mais j'y habite. Et au-dessus, là, c'est un ancien grenier à foin.
Ah oui, d'accord.
En fait, avant ici, polyculture, élevage traditionnel. Donc il y avait de la vigne, des bêtes dans le même bâtiment. Et c'est trop drôle parce que ça, c'est des anciennes cuves.
Ah ouais.
Ça, c'est des cuves en béton, tu
vois. Ouais, ouais, ouais.
149
ouais.
hectolitres.
Ouais, ouais.
Il
y
en avait 4, tu vois. On voit toujours les hectos. Au-dessus, c'était le grenier à foin. Et là-bas, au fond, il y avait les vaches. Dans la même pièce, en fait. Et là, il y avait le pressoir. Ça, c'est le socle du pressoir.
Ah oui, oui.
Donc, en fait, il faut imaginer la moitié pour le vin. Mais en fait, c'était même pas la moitié. C'était une espèce de tiers comme ça. Là, les vaches, elles passaient par là pour rentrer. Et après, alors, la vie des vaches se passait ici, là. Entre tout ça, là. Avec le vin juste à côté. Ça, j'adore. Et c'est du coup, grenier à foin au-dessus.
Ouais.
Avec toutes les poulies. Ben là, on les voit pas trop si tu vois un peu les cordes, là.
Ouais.
Ça, c'est ces fameuses grosses poulies pour faire tomber le foin.
Et du coup, là, l'histoire des vaches, de la polyculture. C'est un peu ce que tu refais aujourd'hui, quoi. Enfin,
Il y a une volonté claire de mettre des animaux dans les vignes.
Ouais.
Et moi, ce que j'aimerais, c'est surtout avoir 5-6 cochons, parce que je veux faire des choix, que j'ai toujours tué des cochons chaque année, notamment pour les vendangeurs, d'ailleurs. Et puis, pour moi aussi. Et du coup, l'idée, c'est si je peux les mettre dans les vignes et choper une petite parcelle de bois pour l'été, pour qu'ils puissent aller à l'ombre, ça c'est en réflexion. Après, pour ce qui est de mixité dans les vignes, pareil, on aimerait bien travailler là-dessus, avec un maraîcher si possible, parce que moi je peux pas tout faire, qui pourrait cultiver dans les parcelles, dans les rangs, au milieu des vignes, ça me dérangerait pas. Et sinon, moi je veux mettre des arbres. Je suis très convaincu par... je veux pas paraître permaculture, c'est pas le cas. Parce que c'est autre chose, et je sais pas de quoi je parle quand je parlerai, enfin, je sais pas ce que c'est. Ce que je sais, c'est que toute la matière organique que je pourrais apporter dans mes vignes et qui va reproduire un côté sauvage va très bien. Mm-hmm. Donc je ramasse, j'envoie des bennes de feuilles d'arbres dans mes vignes, qui sont pas issues de mes vignes, hein, mais en fait tout ce que je peux faire pour créer de la vie dans le sol. Et aujourd'hui, c'est ce qui va faire, qui va guider toute ma viticulture, en fait. Amener de la vie dans le sol, de la vie dans le sol. Peu importe comment, mais...
Et qu'est-ce que tu fais ? Tu ramasses des feuilles que tu amènes
Alors, je ramasse des feuilles, non. Faut pas déconner. Je ramasse pas de feuilles, je vais voir les mairies des villages d'à côté.
D'accord.
Et je leur demande quand est-ce qu'ils ramassent les feuilles avec leur espèce d'aspirateur à feuilles, là. Et voilà, et en fait, je demande juste à l'employé communal de me vider devant ma benne, quoi. Et
génial.
Moi, après, je le balance dans ma benne et hop, je monte dans les vignes et je vide tout dans les vignes.
D'accord.
Les jours où il y a du vent, c'est bien. Et après, voilà, le vent, il en étale partout.
Boulot,
Et ça, j'ai des collègues qui ont des poulaillers, mais pas de quoi faire 10 hectares d'apport de fumier de poule. Mais voilà, de temps en temps, il y a une parcelle, elle a le droit à ça. Il y a les brebis qui passent dans toutes les vignes. Donc ça, les brebis, elles amènent un peu d'engrais partout. En fait... l'engrais, c'est pas bien. Parce que produire de l'engrais, ça coûte énormément en énergie non renouvelable. L'amener l'engrais jusqu'à ici, ça coûte énormément parce qu'il faut pas rêver. L'engrais, il n'est pas fait à Cosséveran, il n'est pas fait à Saint-Chinian, il n'est pas fait à Montpellier. Non, désolé. Il vient de super loin, principalement du nord de l'Europe d'ailleurs, qui sont les spécialistes, Allemagne, Danemark, tout ça. Et non, la Russie aussi d'ailleurs, paraît-il, sont spécialistes, je ne savais pas, mais l'Ukraine sûrement aussi. Mais tout ça pour dire que non, Voilà, moi je veux prendre de l'organique local et je veux c'est toute ma démarche elle est faite là-dessus. Quand je fais mon vin, je le mets en bouteille moi-même, en gravité, je bouchonne moi-même, donc j'utilise pas d'électricité. J'encuve avec mes mains, j'encuve sans utiliser d'électricité. Aujourd'hui, j'ai vu trop de gens, ils arrivent dans leur cave, ils lèvent leur benne, ils appuient sur un bouton, ça fait tourner du 380 fond de balle. Attention la centrale, si elle tourne plus, on est foutu, on fait plus de vin. Eh ben non, nous ça marche pas comme ça. Nous en fait, c'est encuvé à la main, c'est foulé au pied. Il n'y a pas d'énergie. Si, il faut allumer la lumière pour y voir clair, mais c'est quasi tout, quoi. Et mon tracteur, je traite 3-4 fois par an, je le sors, aller hors vendange, parce que les vendanges, je suis obligé de le prendre pour aller faire les allers-retours, ramener la vendange. Sinon, je prends 7 fois par an, quoi. C'est ma fierté, ouais, absolue. Ouais. J'en parle avec des vignerons qui me disent « Oh, punaise, tu fous rien, t'es un feignant. » Ouais, ouais, bien sûr, je suis un feignant. Alors, ça me fait doucement rigoler, mais je ne suis pas feignant, c'est pas parce que j'utilise mon tracteur 7 fois par an, et pas 21, 22, 25 fois par parcelle et par an, que les vignes, elles se portent pas très bien, en fait. C'est surtout ça qui m'intéresse. Moi, je m'en fous. Si mes vignes, elles étaient malades ou qu'elles produisaient pas de raisins, je réfléchirais, je prendrais plus ce tracteur. Mais là, ouais, c'est pas le cas. Il se passe que là, c'est pas le cas. Donc, du coup, j'y vais, quoi.
Petite conversation de cave avec Sandro Trescol, chez lui à Cosséveran, domaine Segundomas. Un reportage au cours duquel on commence à entendre vos convictions, votre manière de travailler. Entrons un peu plus dans le détail. Vous évoquez, on l'a entendu, la biodiversité dans les vignes, animaux, arbres et même un jour peut-être maraîchage. Une méthode que vous résumez en deux mots, sol vivant.
Oui, complètement. C'est toute l'idée de ma viticulture. En fait, plus le sol est en bonne santé, plus les plantes qui poussent sur le sol sont en bonne santé. C'est-à-dire que plus j'apporte de bactéries, enfin, plus ma population de bactéries vit, plus ma vigne vit, déjà j'ai plus de mildiou, fini, parce que le mildiou vient du sol, mais le mildiou il se fait manger par mes bactéries que j'entretiens en fait.
Donc ça vous avez déjà remarqué ça, qu'il y a moins besoin de traitement parce qu'il y a moins d'attaques
C'est clair, 3-4 traitements par an, 2021 pareil. Hein. Donc ouais. 2021 il attend plus que ça, allez peut-être 5, et cette année entre 3 et 4. Après la fleur on ne traite plus. Et puis l'oïdium c'est quand même le seul gros combat qu'on a, donc on traite énormément au soufre, c'est pas très gênant, les doses de cuivre qu'on met, elles sont infimes.
Donc ça c'est un long processus, on comprend mieux pourquoi vous c'était du pain béni de trouver ces vignes où le sol était déjà travaillé dans cette dynamique, parce que avoir un sol vivant comme ça, c'est, j'imagine ça prend du temps.
Ça prend 5 ans, Daniel et Jeanne pourraient vous le dire.
D'accord. Et aujourd'hui, du coup, ça veut dire plus de labour, ou presque, si vous en faites peut-être... Non, plus de labour.
Alors, j'ai un intercept. Est-ce que ce fameux intercept, quand je suis arrivé...
Faut l'utiliser.
Ouais, une fois par an. Chaque parcelle, elle y a le droit, une fois par an. Normalement, j'essaye de le faire quand au moment où la végétation commence à exploser. Ça dépend des années, c'est pas toujours au même moment, mais c'est censé se situer entre le 20 mars et le 10 avril.
Vous pouvez rappeler à quoi sert l'intercept ? Comment
alors,
il s'utilise ?
L'intercept, c'est ce qui va enlever l'herbe qui est sous les pieds de vigne. Et j'enlève cette herbe-là parce que quand même, il faut quand même faire un peu de rendement et peut-être que c'est un moyen d'en faire plus, je ne suis pas convaincu non plus. Mais en tout cas, quand il pleut pas souvent, mais il faut au moins que l'eau aille le plus possible aux vignes. D'accord. Ça, c'est important.
Pas de concurrence, du coup
Donc j'enlève la concurrence au pied des vignes. Par contre, je n'ai pas de labour dans le rang. Alors, mon rang est toujours enherbé avec les sarments quand ils étaient en bon état broyés par-dessus. Et ensuite, je tonds l'herbe, c'est tout. Pas souvent.
D'accord. Et des apports, donc on l'a entendu, végétaux, animaux, enfin voilà, qui continuent à entretenir la richesse de ce sol.
C'est ça, exactement. Ouais, voilà. Mais c'est vraiment voilà, pour la vie du sol et pour que les vignes trouvent tout ce qu'elles ont besoin dans le sol. Pas que, je veux pas qu'elles se nourrissent de quelque chose que je leur ai apporté. Donc je nourris le sol, pas la vigne. La vigne, elle se débrouillera toute seule pour refaire des racines très profondément comme... elle est censée faire si on la nourrit pas, quoi.
Alors bien sûr, si vous visez un sol vivant, c'est parce que vous pensez que c'est bon pour vos vignes et vos récoltes, mais c'est aussi, je crois, parce que vous souhaitez avoir un impact énergétique le plus bas possible, par exemple en utilisant, on l'a entendu, le moins possible votre tracteur. C'est un souci que vous avez aussi d'être sobre énergétiquement, quoi.
Ah oui, exactement. Je pense que ça va te pair avec notre métier de toute façon, mais aussi, je pense que ça va te pair avec le contexte de la société actuellement. Et donc, tout est fait pour, effectivement, que je consomme le moins possible. Donc, au chai, d'énergie, d'électricité. Et à la vigne, ce fameux tracteur qui fonctionne avec du carburant et qui tasse les sols. Et on va réfléchir à chaque fois quand on le prend, à pourquoi on le prend. Est-ce qu'on doit vraiment le prendre à ce moment-là ? Et c'est vrai que ça, ça oriente toute ma manière de faire des raisins. Et donc, d'essayer de traiter le moins possible. Je mets des bactéries. Ça, c'est là-dessus, on pourrait dire que je suis fainéant. C'est les bactéries qui vont traiter à ma place, en fait. C'est les bactéries qui font que je peux rester chez moi pendant que tout le monde traite. C'est bien. Ça, c'est cool.
C'est des bonnes alliées.
C'est ça. Et il faut utiliser un peu tout ce que je peux. En tout cas, j'utilise pour que, effectivement, j'ai moins de boulot. Oui, quelque part, c'est ça. Et ça se passe très bien, encore une fois.
Ce souci écologique, vous le poussez jusqu'au bout avec une vinification, on l'a entendu, très peu mécanisée, jusqu'à même à la mise en bouteille. Et la commercialisation, il y a la même logique. Vous avez refusé des marchés au Japon, en Australie, aux États-Unis. Vous voulez vendre le plus possible en local.
Ah oui, oui, oui. Ah mais oui, clairement, j'ai refusé.
C'est la cohérence globale, quoi.
Oui, sûrement. Mais en tout cas, j'estime que les Américains ont des vignes en Californie, donc ils peuvent boire leur vin. Il n'y a pas de problème. Et puis les Japonais, s'ils veulent boire du vin, et je crois qu'en Chine, ils sont en train de faire, de planter des villages du Beaujolais pour faire du Beaujolais.
D'accord.
Donc ils peuvent très bien, mais enfin, je ne comprends pas, ce n'est pas possible, on ne peut pas envoyer du vin au Japon. Ou alors, ils m'amènent un voilier à Marseille. Bon, je charge le voilier et je veux un checkpoint tous les 100 km pour être sûr qu'ils ne l'ont pas mis dans un super tanker. Et là, ok, mais ce n'est pas possible sinon, non, je pense que ce n'est pas possible. En plus, il faut quand même noter que nous bénéficions du travail de marchands de vin en France depuis 15 ans, qui est colossal, qui font qu'il y a des caves de vin naturel partout en France, sur tout le territoire français, même à Valras-Plage. Incroyable. Même là-bas, il y a un gars assez fou pour aller vendre du vin nature. C'est génial. Et du coup, nous, on peut maintenant faire ça. C'était une démarche qui était beaucoup plus compliquée avant, puisqu'il y a 25 ans, le vin nature en France, personne n'en voulait. Aujourd'hui, tout le monde en veut, donc... Raison de plus pour vendre notre vin ici en France et peut-être bientôt essayer de voir quelque chose pour que tous les habitants qui se situent à moins de 30 km à la ronde du domaine et qui peuvent me le prouver, ben, ils ont 20% de réduction parce que pour moi ça a du sens, parce que c'est logique, c'est cohérent.
D'accord, ben, merci. Des actes qui vont avec vos idées et vos convictions, tout comme... On pourrait en parler après aussi, le fait de démarcher, y compris les supermarchés, la grande distribution. Donc ça peut-être ça plairait pas à nos cavistes, justement je me tourne vers Thierry Guichard, le fameux caviste de Valras-Plage. Alors je suppose que vous n'avez jamais envisagé d'envoyer vos vins au Qatar. C'est pourtant là-bas que part la missive du jour de Thierry Guichard. Thierry, c'est à vous.
Et oui, c'est une lettre que j'envoie à Tamim Ben Hamad Al Thani, qui est l'émir du Qatar. Sabarul Hariri, Tamine. Bon, alors, tu la kiffes, ta Coupe du Monde climatisée? Ça a l'air de bien se passer, non? Tu as notre Manu National qui s'apprête à venir te faire la bise, si j'en crois ce qu'il tweet depuis 2 jours. Notre président est devenu membre du fans club du PSG, apparemment. Bon, c'est vrai que ton équipe nationale, déjà éliminée après 2 petits matchs, c'est pas top top. Moi, je serai toi, Tamine, je naturaliserai Mbappé, Verratti, Neymar et Messi. Ils jouent déjà pour toi au PSG. Tu as les moyens, avec ta fortune personnelle, de leur offrir un passeport qatari, non? Et là, à mon avis, ton équipe de foot, elle se qualifie pour les 8e dans 4 ans. Mais je ne t'écris pas pour parler foot, hein. C'est parce que j'ai vu la liste des sponsors officiels de la Coupe du Monde dans ton pays où on tape la balle dans des cimetières climatisés. Bon, il y a McDonald's, fallait s'y attendre. La malbouffe, ça va avec l'antisocial, c'est comme cul et chemise. Si tu nourris mal les humains, c'est pas pour leur offrir de gros salaires et de bonnes conditions de travail. Ils n'achèteraient pas ta bouffe. Tu le sais, Tamine, que la malbouffe, c'est une chouette manière de tenir un peuple. Pour produire de la malbouffe, il faut baisser les qualités des produits en même temps que les coûts sociaux de ceux qui les font. Du coup, les producteurs de matières premières, ils crèvent la dalle, les ouvriers, idem pareil, pile poil, et du coup, ils mangent quoi, les pauvres? La malbouffe qu'ils produisent à bas coût. Ceci dit, fais gaffe, Tamine, parce que McDo était déjà sponsor de la Coupe du Monde en Russie. Et tu vois où elle en est, la Russie, 4 ans après? Poutine, il a transformé ce qui faisait des hamburgers en chair à canon. Raccourci un peu rude, d'accord, mais dans la logique des choses, CQFD. Ce qui m'a interpellé, moins fort cependant que ne t'interpellent les écolos sur ta climatisation des stades, c'est de voir que la bière Budweiser fait partie des sponsors. Au début, il était prévu que le brasseur américain installe des lieux de picole pour les supporters. Mais voilà-t-il pas que 2 jours avant la compétition, tu reviens sur ta décision et hop, tu déclares que la bière est interdite. Du coup, Budweiser a annoncé que les milliers d'hectolitres prévus pour la compétition seraient offerts au pays vainqueur. Et là, je me dis que c'est très fort de ta part, Tamine. On n'est pas dupes. Sous couvert d'interdire l'alcool, tu viens de rendre gratuit des hectolitres de bière. Quelle promotion! Et je me dis aussi que notre Manu National, s'il fait le déplacement une fois les Bleus en demi-finale, c'est qu'il doit penser pouvoir ramener à Paris le stock de Budweiser. Chirac avait associé son nom à la Corona, aux accents mexicains. Manu, ce sera la Bud Yankee. Dans les deux cas, de la merde en bulle, estampillée Malbouffe et compagnie. Mais je ne t'écris pas pour ça non plus. J'ai une idée à te soumettre. C'est rapport aux Jeux asiatiques d'hiver qui vont se dérouler en Arabie Saoudite. C'est pas le Qatar, ok, mais tu dois avoir voix au chapitre, comme à peu près partout dans le monde. Voilà, est-ce que tu pourrais prendre comme sponsor les vins de Château Vieux Cassan ? Tu ne connais pas ? Je suis sûr et c'est normal. C'est dans le Médoc, mais ça sort des quilles à moins de 10 euros. Tu vois, on reste dans le concept McDo-Budweiser. Bon, le Château Vieux Cassan, c'est la propriété de Grégoire de Fournas. Tu ne connais pas non plus, alors je t'éclaire. Le Grégoire, il est député au Rassemblement National et il s'est fait connaître en gueulant dans l'Assemblée qu'il retourne en Afrique à un député noir de la France Insoumise. Propos qu'on a jugé xénophobe, qu'il était sûrement, mais qui révélait surtout une profonde idiotie. Ben, le Grégoire, il fait du pif, figure-toi. Même qu'il embauche, lui qui est contre l'immigration, une main-d'œuvre roumaine à bas prix pour ses vignes. Je t'en passe des vertes et des pas mûres. L'idée, Montamine, c'est qu'aux Jeux asiatiques d'hiver, vous faites idem pareil qu'avec Budweiser. Et le Grégoire, qui aura envoyé sa soupe vinesque en Arabie Saoudite, il va éructer « Eh oh, je fais quoi de mon vin ?» Tu pourras alors lui répondre qu'il retourne en France. Et là, Montamine, ce sera bien la première fois que j'applaudirai un but du Qatar.
Merci Thierry Guichard, la plume acérée de Thierry. Alors nous, on va plutôt déguster les vins de Sandro Trescol. Hein. Voilà, c'est pour ça qu'on est là. Et avant ça, nous faisons une deuxième pause musicale. Nous écoutons Elliot Murphy.
Things and I say
Elliot Murphy, le choix musical de Sandro Trescol, domaine Segundomas à Cosséveran, aujourd'hui dans Glouglou, sur Radio Languedoc ou sur Radio Pays d'Hérault et RPH Sud, en compagnie de nos deux chroniqueurs Thierry Guichard et Corinne Escafitte. Alors nous allons à présent parler de vos vins en les dégustant, Sandro. Peut-être en préambule une petite présentation de votre vignoble. Quel type de cépage vous avez? Qu'est-ce que vous cultivez aujourd'hui?
Alors oui, il y a Carignan 2 hectares, Mourvèdre 2 hectares. Ensuite, c'est ce partage entre Grenache, Cinsault, Syrah et des raisins de table, du Muscat de Hambourg et du Dabouki, un cépage grec.
D'accord. Donc vous avez gardé cette activité qu'avait démarré votre prédécesseur, un peu de raisin de table, c'est
ah
ça
oui.
Un petit complément de l'activité du vigneron.
Exactement, vendu dans les magasins locaux et bio autour de moi.
Ouais. Et vous m'avez dit que c'était vraiment un conseil que vous donnez même aux jeunes vignerons qui s'installent. Cette double activité est très intéressante, quoi. Ça donne de la trésorerie beaucoup plus vite que le vin. Voilà, c'est un bon complément de l'activité.
Oui, c'est un très bon complément, surtout qu'on sait faire des vignes. Et c'est vrai qu'on a cet avantage par rapport à un maraîcher ou un arbo, qu'on sait vraiment faire des rendements sur des raisins de table et qu'ils soient beaux. Et donc on a tout le matériel, il n'y a pas d'investissement à faire, quoi.
Très bien. Eh bien, alors c'est pas les raisins de table que nous allons déguster aujourd'hui, mais là nous allons déguster deux cuvées. La première c'est Régal. Alors parlez-nous de cette cuvée, du sol, du cépage et de la vinification.
Eh bien donc c'est un grenache et un muscat qui est travaillé sur... Alors c'est les sols, c'est des oxydes de fer avec du calcaire, argilo-calcaire quoi, avec pas mal de fer, terre rouge.
On a dit vos vignes, on n'a pas trop situé. On a parlé de Cosséveran, mais il y a aussi Murviel et Cessenon, c'est ça? C'est dans ce coin-là?
Oui, c'est ça. Mais alors, la partie. Ouais, j'ai des vignes à Cessenon, mais ça touche Cosséveran. Et les parties. Ma vigne à Murviel touche Cosséveran.
D'accord. Elles ne sont pas loin les unes des autres.
Non, pas trop, non. Et donc, on disait Grenache, Muscat. Et donc là, c'est une presse directe.
D'accord.
Donc, c'est un vin qui est vraiment un vin de. C'est pour les cavistes. Ils vont être obligés de dire un coup, c'est du rosé, un coup, c'est du rouge léger. Suivant la tête du client.
Alors, rosé ou rouge, Corinne?
Moi, j'ai un rayon spécial, généralement. Alors, même en ce moment, mais surtout sur 6 mois de l'année, je fais le rayon des rouges clairs ou rosés foncés. Je ne sais pas, c'est vous qui voyez. Et les gens adorent, effectivement. Pour les amateurs, c'est super, ils y vont tout droit. Et on continue à les vendre un petit peu maintenant, y compris, parfois, je suis à 7, pour des accords coquillage ou poisson. Donc là, rouget, pourquoi pas? Pas sur les huîtres, non, ça muscate un peu. Mais on pourrait aussi imaginer voilà, des accords improbables grâce à ces vins-là.
En fait, vous avez pressé directement et la couleur dépend un peu de la peau. Qu'est-ce qui fait qu'il est plus ou moins rosé parce qu'il n'y a pas de macération?
Pour dire vrai, ça fait 2 ans que je fais du rosé Cosséveran et que ça sort comme ça. C'est parce que je n'ai pas le pressoir qu'il faut, je n'ai pas de pressoir vertical et du coup, je fais...
Les peaux imprègnent un peu plus le jus, quoi.
Oui, je presse trop... Il faudrait peut-être que je sépare la fin du début, je sais pas.
D'accord.
On verra.
Okay.
En réflexion. Mais j'aime bien ce vin, alors.
Oui. Il est. Alors, je sais pas, Thierry, Corinne, qui veut nous parler, un peu nous décrire un peu le vin
qu'on a dans le verre. C'est très gourmand. Il y a quand même une petite structure qui est assez agréable, je trouve. On revient aussi même dans les vins légers comme ça et qui se boivent facilement. L'idée d'avoir quand même une colonne verticale qui est présente. Côté muscat, on l'a, mais pas trop opulent et qui prend pas le dessus. Vraiment un vin gourmand, très agréable.
Ouais, c'est même étonnant qu'on a le sentiment que le muscat amène de la tension, alors que ça devrait plutôt être l'inverse, parce qu'on l'a peut-être en milieu de bouche et vers la fin de bouche, et c'est vraiment très joli, on est sur du fruit rouge, voilà, ça se boit tout seul, facilement, et le plus difficile est de ne pas en reprendre.
Très bien, alors c'est justement ce que nous n'allons pas faire. Vous vouliez rajouter quelque chose sur ce vin, Sandro?
Bien vu sur la tension, parce que ces muscats, ils ont été ramassés au tout début en fait, des vendanges, c'était la partie des vignes qui avaient... souffert de la sécheresse et qu'il y avait des grappes qui ne présentaient pas pour la vente. Et du coup, j'ai tout ramassé très tôt pour faire du vin avec des grenaches. C'est peut-être pour ça que Muscat amène l'attention et pas le côté trop floral, exubérant.
Très bien. Alors, je disais que nous n'allions pas en reprendre, mais parce que nous avons la curiosité de découvrir une autre cuvée, votre cuvée ensemble, faite à quatre mains, c'est ça, avec Daniel Lin, l'ancien propriétaire de vos vignes. Et donc là, on est sur du Mourvèdre, c'est ça?
Exactement.
Des vieilles vignes de Mourvèdre. Donc Sandro Trescol est en train de nous servir le jus de ces vignes, des vignes presque centenaires,
non,
c'est ça?
Non. Les Mourvèdre de Saint-Chinianais, c'est pas si vieux. Je pense que les plus vieilles doivent avoir 40-50 ans. Celles-ci ont 35 ans.
D'accord. Et donc là, la particularité de la vinification de ce vin, dont on a parlé un peu tout à l'heure en introduction, évoqué en tout cas, l'inspiration du domaine de Dar et Ribot, c'est la macération avec rafle, qui n'est pas une macération carbonique. Expliquez-nous.
Alors, exactement. En fait, tous mes vins rouges sont faits de cette façon-là. C'est par des macérations plutôt courtes, avec les rafles foulées et remontage tous les jours, pigeage. C'est-à-dire on va extraire beaucoup malgré la présence des rafles. Donc, on ne peut pas faire de macération longue. Sinon, on part sur des tanins verts et des vins, il me faudrait 5 ans d'élevage pour les vendre et là, je ne peux pas. Mais par contre, on fait donc des macérations courtes, des vins aux arômes plutôt primaires.
Combien de temps à peu près, ces macérations?
Alors, 6 jours, c'est pour le cinceau. C'est la seule qu'on fait comme ça. Et sinon, on est entre 12 et 14 jours à peu près.
Ce qui est le cas là, de celle-ci, là, ensemble. Ouais. On 12, là, 14 jours de macération, donc...
C'est ça.
Dans la cuve. Et qu'apporte la présence des rafles dans la macération? Qu'est-ce que, alors, est-ce que vous m'avez dit, je le fais parce que je l'ai vu faire comme ça chez Daré Ribot.
Pas que.
Mais voilà, mais en plus, voilà, qu'est-ce que vous cherchez dans ce type de vinification?
Alors, la rafle, ben, je ramasse très mûr. En dehors de la cuvée de cinceau, encore une fois, qui est le seul cépage que je ramasse en sous-maturité, tout le reste, je ramasse très mûr, malgré le fait qu'il fait chaud. Parce que pour moi, un bon vin, c'est des raisins bien mûrs. Par contre, je ne veux pas faire des vins à 16 degrés, parce que déjà, je ne prends pas de plaisir à les boire spécialement, et c'est compliqué à vendre. Donc la rafle me permet de faire tomber le degré d'à peu près 1 point. C'est-à-dire que c'est déjà assez intéressant. C'est un antioxydant naturel, vu que je n'utilise pas de soufre. Le jus de rafle me permet quand même de faire un peu le ménage des bactéries pendant la fermentation, de celles que je ne veux pas. Et puis surtout, ça m'amène ce côté vertical. Alors c'est marrant parce que je n'avais pas l'habitude d'entendre ça, mais moi je parlais toujours des vins entre vertical et horizontal. Je trouve que c'est très important qu'un vin soit vertical, proche de l'eau, comme je disais tout à l'heure. Il faut que ça se boive bien, c'est comme ça que j'aime le vin. Donc c'est des vins qui sont quand même tous des vins de soif ou des moins...
Des vins qu'on aime boire et reboire.
Voilà.
Un complément sur ce Mourvèdre, la cuvée ensemble du domaine de Segundo Mas.
Ben moi je voulais insister sur le nez, le premier nez. On a des notes de cassis très affirmées comme ça, qui sont très gourmandes et un peu surprenantes pour du Mourvèdre. Et ensuite, effectivement, en bouche, quand on prend le Mourvèdre, on a cette verticalité dont tu parlais, Sandro, et il y a cette espèce de facilité de texture à boire, et avec quand même une longueur en bouche sur ce Mourvèdre-là, parce que le Mourvèdre, il est quand même structuré, il est quand même, il se tient, il est costaud. Et c'est vraiment très joli, et c'est un vin qui peut aller avec pas mal de choses, moi, il me semble, mais je laisse peut-être Corinne en dire un mot.
Oui, moi, voilà, rebondir sur ce que tu disais, c'est ce que j'aurais aussi mis en valeur, et je trouve que c'est un vin qui a du fond, tout en étant très abordable et facile à boire. Et c'est quelque chose qu'on recherche de plus en plus, parce qu'il y a eu beaucoup de vins légers, faciles à boire et tant mieux. Mais là, il y a quand même un petit peu plus. Et c'est, voilà, ça dure, ça persiste, on peut l'imaginer en plein de circonstances. Et on garde quand même la sensation de quelque chose qui fait tout de suite du bien au corps. Alors, je ne sais pas au bout de combien de bouteilles, ça fait moins du bien. Mais pour reprendre ce que tu disais, voilà, qui se boit comme de l'eau, mais il y a du fond, il y a du vin.
Merci Corinne et Thierry. Et pour compléter votre portrait, Sandro Trascol, il aurait fallu dire que vous êtes aussi un fin cuisinier, que vous aimez particulièrement le faire et que vous conviez 2 ou 3 fois par an vos clients cavistes et vos associés Terra Hominis pour un week-end gastronomique. Je crois qu'il a eu lieu le week-end dernier justement, où vous concoctez non pas un, non pas deux, mais 3 repas chez vous. Alors bon, pour en parler, il faudra qu'on vienne peut-être participer au prochain et prévoir une autre émission pour cela. Malheureusement, celle d'aujourd'hui touche à sa fin. Merci Sandro Trescol d'être venu vous raconter un peu à ce micro. Merci Corinne Escafit et Thierry Guichard de nous avoir accompagnés. Merci à Nicolas aujourd'hui à la technique dans les studios de Radio Languedoc Narbonne. Merci aux auditeurs fidèles qui nous suivent sur Radio Pays d'Hérault et RPH Sud ou en podcast. Et merci à ceux qui nous rejoignent sur Radio Languedoc. Mangez bien, buvez sain. On se retrouve le mois prochain. Hey! Tampoco bala tu que truca tu que tac tu que toca tu que liga tu que raga tu que digo da una nave mi nunca petit capuri en quelli coba tu que truca tu que tac tu que toca tu que liga tu que raga tu que digo da una nave mi nunca petit tampoco bala tu que truca tu que tac tu que toca tu que liga tu que raga tu que digo da una nave mi nunca petit capuri en quelli coba tu que truca tu que tac tu que toca tu que liga tu que raga tu que digo da una nave mi nunca petit.